Le Move.
Classiquement, c'est-à-dire que vous, vous écrivez vos livres, moi je les lis et on en parle. Vous voyez, c'est plus...
C'est
classique.
Mais c'est le bon vieux temps.
C'est le bon vieux temps. Voilà, nous allons faire des choses très classiques. Ce nouveau roman qui paraît aujourd'hui même, je le disais, chez Gallimard. Trésor d'amour, Philippe Solers. Alors, c'est vrai que... On peut dire que vous annoncez la couleur dès l'exergue, puisque ce proverbe vénitien du XVIe siècle que vous avez évidemment inventé, « Douleur d'amour ne dure qu'un moment, trésor d'amour dure plus que la vie ». Et on peut dire que tout le roman est baigné dans l'atmosphère d'un amour passion, d'un amour heureux, d'un amour accompli, mais c'est pas du tout à la mode, ça. Où est le malheur dans ce livre ?
Et justement, c'est ça qui fait la très grande faiblesse de ce livre et pourquoi il devrait être très mal reçu dans une époque où seul le malheur est convaincant et a l'air d'être authentique. Car tout le monde souffre, nous souffrons trop, et je ne vois pas pourquoi on lirait un livre où le narrateur n'a pas l'air d'être dans une angoisse terrible, dans l'embarras de la vie, de la sexualité, de tout ce qui obsède, de l'argent, etc. Voilà, on peut être heureux avec très peu de moyens, et c'est ça que j'essaye de démontrer. Bon, alors, douleur d'amour ne dure qu'un moment, trésor d'amour dure plus... que la vie, ça veut dire déjà que la mort est envisagée comme quelque chose qui n'est pas fondamental. Et puis, c'est le contraire de la ritournelle, chagrin, plaisir d'amour ne dure qu'un instant, chagrin d'amour dure toute la vie, etc.
Belle ritournelle.
Voilà, la belle ritournelle, et que ces tristes Venise au temps des amours mortes, etc. Et les feuilles mortes se ramassent à la pelle, et tout ce que vous voudrez.
Et tout passe, tout lasse.
Et voilà. Et donc, ça, c'est ce que j'appelle l'infection. Très intéressante d'ailleurs à étudier de près, du romantisme, c'est-à-dire de la vision romantique de la vie, de la mort, etc., de l'amour qui ne peut qu'échouer, propagande que vous avez à peu près partout constamment, dans tous les médias, enfin les magazines, dans les films, etc. Il y a des histoires d'amour, mais qui doivent automatiquement être à un moment donné punies, dérapées dans le malheur, etc., etc. Donc on vous parle plutôt des malheurs d'amour, parce que ça, au moins, ça attire l'attention. Qu'est-ce qu'il y a à dire du bonheur ? Eh bien, alors, pas grand-chose. Moi, ils se marièrent, ils furent très heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Non. Il y a un écrivain dont je partage complètement et qui intervient là, qui est un spécialiste de la chasse du bonheur. Il dit la chasse du bonheur, parce qu'on chasse le bonheur, mais il vous chasse aussi, il vous choisit aussi, voilà. C'est Stendhal, et c'est pour ça qu'il est là, en toile de fond de ce livre, où je le mets en scène dans sa vie qui est d'une étrangeté considérable. Il a écrit un petit bouquin, fébrile, au crayon, dit-il, lorsqu'il a eu une histoire d'amour impossible en
Italie.
Que
vous racontez.
En Italie, oui, c'est ça. Avec Mathilde Viscontini, qui est l'ancêtre de la personne que je rencontre à Venise, que le narrateur rencontre d'abord à New York et ensuite à Venise. Donc, je crois que Stendhal est tellement à contre-courant qu'il est dans le courant profond. Voilà. Le contre-courant, c'est tout le reste, et qui ne demande qu'à s'évacuer.
Alors, ce livre de Stendhal dont vous parlez beaucoup, c'est vrai, dans votre livre, Philippe Solers, c'est de l'amour, donc c'est pas forcément son livre le plus connu. Et alors, en même temps, Stendhal, c'est curieux parce que vous dites plus personne ne le lit. Vous exagérez pas un peu, là, quand même, Le Rouge et le Noir, La Châtreuse Parme, enfin, peut-être que les gens ne lisent pas tout Stendhal, aussi bien que vous, mais quand même, c'est un auteur qui n'est pas complètement au purgatoire, Stendhal.
Le problème, Frédéric, ce n'est pas tellement qu'on lise ou qu'on ne lise pas Stendhal, j'ai des plus grands doutes à ce sujet, il n'y a pas forcément des amateurs, et quelques universitaires, en général des femmes d'ailleurs. Non, le problème est plus général, c'est qui lit quoi ? Est-ce qu'on est en... C'est le sujet de notre époque. Qui est capable vraiment de prendre le temps de lire, de mémoriser plus de 3 lignes avant de les oublier aussitôt ? Qu'est-ce qui se passe dans la mutation dans laquelle nous sommes ? Vous savez bien qu'il y a iPad, etc., Google, tout ça, le numérique, Avaloir, etc. Qu'est-ce qui prend le temps de rester un tout petit peu concentré pour lire quelques pages ? Et voilà. Parce que vous savez où on en est. Les gens ouvrent des livres, des romans, etc. Ils veulent assister à un film. En réalité, ils veulent voir un film. Donc, peu importe les mots, peu importe la musicalité des mots, peu importe les phrases, à la limite. Hein, mais... Donc c'est trop long, c'est trop compliqué. Et puis on n'a pas le temps. Et puis donc là, je sais à peu près de quoi je parle parce que je travaille dans une maison d'édition. Mmh. Je sais à peu près de quoi je parle, même chez les professionnels et chez les écrivains qui se donnent pas tellement la peine de lire, qu'on les ouvre, on voit comment ils écrivent, on sait qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas appris des leçons élémentaires de tenue de l'archer sur le violon. Donc voilà, c'est un problème général, c'est le problème de notre société planétaire désormais.
Et vous le constatez en tant qu'auteur et en tant qu'éditeur. Pour être simple, là, vous sortez un nouveau livre, ce que vous faites à peu près tous les ans ou tous les deux ans, parce que vous, votre métier, c'est d'écrire, donc vous écrivez tous les jours, voilà, tout simplement, et vous publiez, vous donnez des nouvelles de temps en temps. Est-ce que vous avez le sentiment d'être plus mal lu aujourd'hui, en notre début 2011, qu'en 1959-60, quand vous publiez ce premier roman qui s'intitule « Une curieuse solitude » ?
Non, je crois qu'en réalité, il y a eu toujours, ça nous a été caché, il y a eu toujours très peu de gens qui lisent vraiment. Bon, le lecteur qui est un personnage d'ailleurs énigmatique. Hein, voilà. Cela dit, ça date d'il y a très longtemps, peut-être de toujours. Cela dit, et on est dans une phase où on ne peut plus culpabiliser quelqu'un de ne pas lire. On a pu... pendant très longtemps, y compris assez récemment, faire comprendre que si c'était pas lu, eh ben c'était pas bien. Mmh. Ou si on était ignorant.
Mais vous n'êtes pas du tout de ce côté-là, vous. Vous n'êtes pas du côté de la culpabilisation de qui que ce soit. Si.
Non, parce que la culpabilisation n'est plus possible. Les gens qui ne lisent plus se foutent éperdument qu'on puisse les essayer de leur dire vous avez tort, vous prendriez, vous réfléchiriez, ça vous ferait, ça vous apporterait quelque chose sur votre propre vie, vous auriez avantage à lire, etc. On a pu faire ça longtemps, on s'est battu pour telle ou telle expérience d'avant-garde. Bon, on pouvait encore culpabiliser les universitaires, culpabiliser les médias, un peu quand même. Ils n'étaient pas arrogants. Mmh. Maintenant, c'est l'arrogance de l'ignorance qui éclate à peu près partout, c'est-à-dire, allez vous faire foutre avec vos bouquins.
Et alors, dans votre métier d'éditeur, parce que vous êtes éditeur chez Gallimard, vous avez une collection qui s'appelle L'Infini, quand par exemple, pour un des livres que j'ai lu moi, Yannick Enel, l'année dernière, publie chez vous, Philippe Soler, c'est un livre qui s'appelle Yann Karski. Grand succès, on en parle, de façon plus triviale, vous vendez beaucoup d'exemplaires, c'est-à-dire que vous avez un doute, les gens l'achètent peut-être, mais ne le lisent pas forcément.
Il y a eu immédiatement une polémique qui a occupé tout le terrain, le livre a profité de cette polémique qui avait peu à voir avec l'écriture même du livre. Donc ça a été recouvert immédiatement de façon politique, morale, etc. etc. Bon, un malentendu est le bienvenu. Si je peux avoir un malentendu, bon, ça existe. Les livres qui ont l'air d'avoir été lus par malentendu, mais le terrain n'est pas celui des phrases, par exemple, de Enel. Il écrit d'une certaine façon, très 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 précise, et on n'a pas parlé vraiment de son style. Or, le style, c'était l'homme autrefois, et aujourd'hui, le style, eh bien, c'est pratiquement introuvable. Ou alors, il faut vraiment allumer une petite bougie. Donc, je vous assure, il y a une mutation très importante qui est en train de se passer, qui, évidemment, va durer un certain temps. Il est fort possible qu'en même temps croisse peu à peu une nouvelle espèce humaine qui, au contraire, comme au Moyen-Âge, si vous voulez, lira. Et lira, et à ce moment-là, aura un certain pouvoir qui, pour l'instant, n'est plus vraiment la...
Le pouvoir d'une sorte de minorité agissante.
Oui.
Ou lisante, en tout cas.
Oui. Le pouvoir, ça j'y crois beaucoup. Je crois qu'en effet, c'est un pouvoir. L'information est un pouvoir, mais l'information en général est stéréotypée. Il n'y a qu'à lire Wikileaks du génie qu'est Julian Assange.
Merci.
Merci. Ce pirate informatique est génial. Il sera peut-être bientôt assassiné dans des circonstances troubles. Comme par hasard, on lui colle une histoire de viol absolument ahurissante sur le dos.
Non, mais je suis heureux de vous l'entendre dire, parce que vous dites, voilà, quand on me donne une information qui est intéressante, je ne la refuse pas avec à des a priori moraux, la transparence et ce secret d'État, que
mais
sais-je.
J'ai été ahuri et indigné, je veux dire. Indignons-nous. Mais pas forcément sur commande. Il faut aller chercher la véritable indignation. Et elle n'est pas forcément visible. Eh bien, j'ai vu des intellectuels, des intellectuels, comme on dit, comme on dit dans notre beau pays, prendre parti contre Assange et dire mais que c'était pas bien, que ça allait être la dictature de la transparence, c'était une sorte de dictature infantile, etc., etc. Comme si des intellectuels français, hein, voulaient protéger des secrets d'État. Donc ils devenaient par là même des intellectuels d'État.
Oui, ce qui est extra... Hongrois.
Oui. au moins en Hongrie, c'est clair. Et là, c'est plus insidieux, c'est la servitude volontaire.
Oui, l'autocensure.
La servitude volontaire. C'est un très beau titre, il faut relire ce petit précis d'un de mes compatriotes bordelais.
Et alors, si vous parlez, je vous ai interrompu d'ailleurs, vous parlez de ce nouveau type de lecteurs, si je comprends bien, ils seront très minoritaires, hein, mais ils auront du pouvoir, donc.
Comme au Moyen-Âge. Il y avait très peu de gens qui savaient lire. Hein, ils étaient dans des monastères, ils étaient dans des endroits. Et voilà. Ça a duré très longtemps, vous savez, avant qu'il y ait eu la Renaissance. Moi, je crois qu'on est parti pour un très long temps. Et c'est ça que j'ai à l'esprit constamment quand j'écris, c'est-à-dire concentré au maximum, hein, de façon presque encyclopédique dans les essais et de façon très très musicale dans les romans, parce que c'est la poésie qui demeure, quoi qu'on fasse. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, voilà, au pays qui te ressemble, c'est un peu le thème du livre.
Hein, ce pays s'appelle Venise.
Voilà, c'était Amsterdam pour Baudelaire, mais enfin, ça colle très bien à Venise. La preuve, voit sur ses canaux dormir ses vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir tes moindres désirs qu'ils viennent du bout du monde. Voilà, vous avez vu tout de suite comme l'espace a changé, et le temps aussi. Il y a une résonance, voilà. C'est ça c'est la poésie, et dans le style, on peut atteindre, alors dans la concision, dans la rapidité de l'exécution, ce que fait Stendhal, qui n'est pas poète au sens d'écrire de la poésie, mais qui l'est vraiment dans la vie. Comme le prouve ce texte extravagant qu'il écrit vers la fin de sa vie, qui s'appelle Les Privilèges.
Ah oui, ça on va. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Mais alors, quand même, question, parce que depuis le temps que vous coltez avec ça, avec ce genre littéraire qui s'appelle le roman, en tant qu'écrivain, romancier, mais aussi éditeur, à un moment, vous dites que le vieux roman, c'est terminé. Vous venez de me le redire, que maintenant, c'est le cinéma. Et que d'ailleurs, le cinéma lui-même est terminé. Hein, vous
oui,
écrivez.
Oui.
C'est plutôt vers la fin. Mais alors, vous dites, ce qui reste, point d'interrogation, la proximité la plus proche, un plus que roman, celui-ci par exemple, dont le vieux roman vexé dira bien entendu qu'il ne s'agit pas d'un roman. Alors qu'est-ce que c'est que ce plus que roman que vous semblez appeler de vos voeux ?
Un plus que roman, c'est quelque chose qui ressemble à une tradition d'ailleurs assez française. C'est pas le roman anglo-saxon qui occupe absolument le 99% de l'espace.
Et lui, il prend son paquet aussi. Vous dites tout le mal que vous en pensez.
Voilà. Mais... Donc, c'est une tradition française, c'est-à-dire ce qu'on aurait raison d'appeler le roman philosophique, par exemple, avec des auteurs que je ne citerai pas. C'est-à-dire du roman qui essaye de faire penser. Et donc là, c'est déjà quelque chose qu'on reçoit avec pas forcément de la complaisance, parce que si je suis obligé de penser, si je lis, écoutez, je suis désolé, mais Proust pense, Céline pense, de façon un peu maniaque parfois, mais enfin, il pense tout le temps, etc. Le Candide est un petit roman qui est un chef-d'œuvre de la littérature universelle, on le transpose aujourd'hui, ça. Bon, Diderot, etc. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut se faire dans une langue qui est peut-être en train de plonger dans des profondeurs, qui s'appelle le français. Alors, il y a une question qui se pose historique. Où est-ce qu'en est la France ? Regardez, crise d'identité, la France est-elle finie ? Où est-ce que nous sommes ? La mondialisation nous efface-t-elle de l'existence ? Avons-nous encore le droit d'exister ? Où est-ce qu'on en est ? Mon identité n'est pas sûre, je la redemande, mais je la redemande pas vraiment parce qu'elle m'inquiète. Ranani, ranania, etc. Prenez Stendhal. Au moment où il y avait ce qu'on appelait la grande nation, comme disaient les Allemands. Voilà. La grande nation, c'était la Révolution, c'était Napoléon, hein, c'était Bonaparte et Napoléon. C'est l'entrée des troupes françaises à Milan en 1796.
La conquête de l'Europe.
La chartreuse de Pâques. Voilà. Stendhal est là. Et il n'est pas là au moment de la prise de l'Italie, de la campagne d'Italie. C'est pour ça qu'il va la refaire plus tard dans
mais
la Chartreuse.
Mais il est là au moment de la Bérésina.
Alors,
il est là au moment de la retraite de Russie.
Exact. Il est là, c'est une vie infernale. Il n'a pas décrit beaucoup la retraite de Russie. Il a beaucoup souffert, il a marché pieds nus dans la glace, avec les Cosaques au cul, des cadavres partout, entreprise folle de Napoléon qui n'a rien compris. Il n'a rien compris, plus que Hitler d'ailleurs. D'une certaine façon, il a fait massacrer l'État de... Bon, il est rentré de Russie. Alors qu'il était vraiment dans l'armée. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce moment-là ? Il a cherché où était l'issue. C'était pas la restauration. Hein, comme on n'est même pas en restauration aujourd'hui, on est en régression totale. Bon, donc, quand vous êtes coincé sur le plan social, historique, vous cherchez désespérément, votre corps vous demande une libération, une liberté. Et comme c'est un être de liberté, hop, il tombe sur l'Italie. Et là, l'Italie lui offre un nouveau corps, de nouvelles sensations, l'amour, etc. Et ça me touche énormément parce que je l'ai vécu d'une toute autre façon dans ma vie personnelle. C'est-à-dire qu'à un certain moment, des hôpitaux militaires, réformés numéro 2 pour terrain schizoïde aigu.
C'était pas facile à l'époque de se réformer, il fallait en faire pas mal avec les médecins militaires.
Avec deux mois.
Moi, quelques années plus tard, ça a été plus facile.
Oui,
vous voyez.
Moi, j'étais obligé, monsieur. On ne parlait pas de la guerre d'Algérie.
Il y avait une guerre.
Oui, il y avait une guerre, paraît-il. Voilà. Et on parlait du maintien de l'ordre. Je voyais arriver dans la salle d'hôpital où j'étais, dans l'Est de l'Europe, à Montbéliard, etc. Vous voyez, un bataillon disciplinaire, etc.
Vous aviez morflé, comme on dit.
Alors, ce sont des circonstances où on s'aperçoit qu'en effet, il faut trouver une issue. Et quand on est écrivain, c'est là où ça reste quelque chose de très magique. Hein, si on continue à écrire, malgré tout, quelque chose se dénoue mystérieusement. Hein. Et là, ça a été l'Italie. Et ça a été Venise. Je suis arrivé là, bon, j'ai fait un peu le tour d'Italie. Je suis arrivé à Venise et j'ai posé mon sac et je me suis dit que c'était là le lieu et la formule. Alors, un certain Venise, pas évidemment celui des touristes ou de la foire qui s'organise et où Venise se dissimule, d'ailleurs, parce que le livre Trésor d'amour constitue, de façon resserrée, une certaine façon singulière et clandestine de vivre à Venise, dont je crois que je peux dire que je la connais. C'est-à-dire avec un bateau et des quartiers qui s'éloignent des mouvements de foule. Là où il n'y a pas de magasin, la vie est admirablement voluptueuse.
Pour prendre un exemple de style, Philippe Solers, vous écrivez « Mina est-elle heureuse ? Elle ne croit pas à la société, elle aime sa fille, elle semble ne pas s'ennuyer avec moi, on a l'argent qu'il faut, on vit le plus souvent très dissimulé à Venise. Vous voudriez des détails plus intimes ou plus sexuels ? Je vais vous les donner dans un instant. » C'est fait.
C'est ça.
Voilà, ça effectivement c'est de l'écriture. Je vais vous les donner dans un instant, c'est fait.
Ça, c'est une reprise même de L'autre amour, dans les chants de Maldoror. Je dirai dans quelques instants, écrit L'autre amour, comment Maldoror fut heureux pendant son enfance. C'est fait. Donc c'est une sorte de citation, mais en même temps c'est un défi à la société spectaculaire, c'est-à-dire que si vous avez une histoire d'amour, eh bien, il faut que, si vous êtes un peu connu, il faut qu'elle soit photographiable, commentable.
En fait, vous avez horreur de ça, vous avez horreur de l'indiscrétion et de l'exhibition.
Horreur. C'est pour ça que je m'arrange pour me montrer sous des dehors médiatiques par moment. C'est pour faire...
C'est-à-dire vous payez votre tribut ?
Voilà, c'est ça. Voilà, je paye mon tribut à la société des marionnettes. Et donc, c'est comme ça qu'on peut... Il ne faut pas se marginaliser. Voilà, il faut vivre clandestinement sans se faire marginaliser. Ça réclame un certain art du temps, justement.
Si je vous comprends bien, et c'est quand même au cœur du livre avec ce couple d'amoureux qui se retrouve à Venise quelques jours par mois, simplement. Elle vit à Milan, lui, il vit à Paris.
Oui, parce que le temps est très large quand on est dans ces conditions. Alors je dis que 8 jours, c'est un mois ou 2 mois, voilà. Le temps... La question de l'amour, passion, un peu d'amour, amoureuse, c'est le changement de l'espace et du temps. Et en même temps, des sensations, des perceptions. Si vous êtes dans cet état-là, organisé de façon un peu musicale, eh bien, un temps court devient très long, un temps long, c'est bref.
Mais ça, c'est une expérience que tout le monde fait. Il suffit de prendre un train, de commencer un voyage, même bref, pour s'apercevoir qu'effectivement, ses perceptions changent.
J'encourage toutes les personnes à qui ça arrive à renforcer ce point de vue, enfin ce point de vivre. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas là forcément pour les écrire, ces histoires-là. Hein, c'est bon. Moi, je pense que ça ne va pas sans dire. Et je me suis persuadé qu'il y a des tas de personnes. Et happy few, comme dit Stendhal, il y a des heureux peu nombreux, mais il y en a beaucoup d'heureux peu nombreux, sans doute. Sauf qu'ils nous donnent de leurs nouvelles que pas du tout, ou pas vraiment. Mmh. Ce qui encombre le marché, ce sont des histoires, en général, tragiques, souffrances, etc. Là, ça s'écrit.
Oui. Vous avez employé le mot de propagande tout à l'heure.
Oui, il y a une propagande sociale évidente.
Propagande du malheur.
Une propagande du malheur, parce que comme ça, vous serez heureux d'avoir un protecteur. Et d'ailleurs, nous entrons dans une ère de protectorat intensifié, comme vous savez, le président de la République a dit au moins 20 ou 30 fois dans ses vœux qu'il allait vous protéger. Eh bien, croyez-moi que si vous devez être protégé, vous n'avez pas besoin. Il n'est pas question que vous sentiez bien dans votre peau, que votre vie vous satisfasse. Non, ça ne va pas. Je viens chez vous. C'est un peu comme la mafia, vous savez. Vous voulez vivre tranquille. Hein, dans votre rue, dans votre quartier. Eh bien, écoutez, ça sera 100 euros par mois. Sinon, vous aurez peut-être, je sais pas, un incendie, quelque chose. Tout est ça. Bon, eh bien, je m'en vais vous protéger, monsieur Bonneau. Vous voyez ? Dites-moi. Voilà. Et là, je vais être votre protecteur. C'est très drôle. Parce qu'en politique, tout est absolument une cocasserie. Maintenant, absolument invraisemblable. Tout ce beau monde était à Marrakech. Le président, sa femme, DSK, dans son riad, tout
au même endroit.
Au même endroit, c'est-à-dire au Maroc, qui était un protectorat français. Donc, nous savons maintenant, la France devient un protectorat. Eh bien, vous allez voir que ça va s'accentuer. L'année vient de commencer. Oh, elle va être très longue, parce qu'il faut attendre 2012, autrement dit 2017 déjà. Voilà. Donc, vous comprenez, c'est ça le problème, c'est que la société vous impose de freiner, d'attendre qu'on vous dise ce que les gens de pouvoir ont décidé, c'est-à-dire pas eux les pauvres, mais enfin les banques.
Oui, je pourrais vous répondre, Philippe Scolaire, qu'avec votre idée, par exemple, de trésor privé, alors ça, je trouve que c'est une formidable invention, vous dites qu'on en a quand même un peu assez de données sans arrêt au trésor public.
Vous êtes obligé de l'écrire.
Mais voilà, et qu'à un moment, le trésor privé serait plus sympathique que le trésor public.
Sauf que cela, c'est gratuit.
Et voilà. Mais ce que vous racontez,
l'amour,
en fait,
c'est gratuit. Voilà. Si c'est pas gratuit, c'est pas de l'amour.
Voilà. Et c'est là où, évidemment, vous rejoignez Stendhal, qui est la puissance tutélaire du livre. Vous racontez que cet amour-passion est en fait une dissidence, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est-à-dire que c'est une telle méfiance vis-à-vis de la société qu'il s'agit vraiment de se mettre à l'écart. C'est une dissidence.
Il n'y a rien de plus falsifié aujourd'hui que ce qu'on appelle l'amour. C'est à toutes les sauces, les philosophes écrivent là-dessus de façon très peu convaincante parce que leur vie privée ne les y autorise pas visiblement, donc ce sont des abstractions. Là-dessus, vous avez une propagande, et j'insiste sur ce mot, constante, des romans d'amour pullulent, les magazines n'en finissent pas. Allons dans le kiosque à côté, vous allez voir, je vous montre tout ça, il faut qu'il y ait des histoires dites d'amour. C'est un des mots les plus prostitués de la langue française. J'avais une très grande admiration pour André Breton, qui n'a pas l'air près de Stendhal, mais qui quand même, là, on va le retrouver. Vous savez qu'il disait toujours, bon, alors j'ai été fidèle dans ma vie à trois choses. Hein. La liberté, l'amour, la poésie. Je ne crois pas avoir démérité de ces trois. Comme c'était un anarchiste assez conséquent, je pense que... Donc là, je crois que ces trois mots, c'est à chacun de les renouer. En soi. Il ne faut pas attendre la liberté qu'on ne vous donnera pas.
Alors très bien, nous allons faire une pause et ensuite on va reprendre sur les trois mots de Stendhal qui sont,
Breton.
Si je me souviens
ah,
bien,
oui.
Non, ceux de Stendhal, vivre, écrire, aimer. Exactement. Je les ai dit dans le désordre. Vous les remettrez dans l'ordre tout à l'heure.